Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundo et Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fior, et prise de son assurée ce soir par Yanis Djouda, des réalisations Daniel Finot. Autour de moi, Fabienne Pascoe, Anna Sigalevitch, Lucille Como. À notre affiche, les trois sœurs, d'après Anton Tchekhov, mise en scène Simon Stone, au théâtre de l'Europe, l'Odéon. Intramuros, deux, et mise en scène Alexis Michalik, au théâtre de la Pépinière. Et pièce d'actualité numéro 9, Désobéir, conçue et mise en scène par Julie Berès, au théâtre de la Commune. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Stalingrad de Rezo Gabriadze. Des places à gagner pour ce vendredi 24 novembre à 19h30 au Montfort Théâtre à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un spectacle très attendu. Et pour une fois, c'est moi qui commande Twitter pendant qu'Aïssatou fait autre chose, essaye d'ouvrir autre chose. Malicieux Arnaud Laporte, nous dit Sylvie Collin, qui réunit Lucille Como, Anna Sigalevitch, Fabienne Pascoe pour discuter en toute sororité des trois sœurs. Donc ça fait six avec vous trois. Et pour moi tout seul, dit-elle, dans la dispute. C'est vrai. Simon Stone, donc artiste associé à l'Odéon Théâtre de l'Europe, après que le jeune metteur en scène australien a fait sensation au dernier festival d'Avignon avec Ibsen Huys, relecture contemporaine de plusieurs pièces d'Ibsen. Cette fois, c'est aux trois sœurs de Tchekhov donc qui s'est attaqué pour une mise en scène créée en langue allemande il y a un an au Théâtre de Bâle et qui offre ici au metteur en scène l'occasion de travailler pour la première fois avec une distribution française. Qu'est-ce que la méthode de Simon Stone allait donner sur des comédiens français? Qu'allait-il rester de Tchekhov dans ce spectacle? Réponse avec nos critiques après l'écoute d'un extrait.
Quelle charmante surprise, chérie.
Salut.
Tu m'appelles Théo.
Hein? Alexandre. Ah, ouais. Je vis à côté.
La maison est restée vide pendant des années.
Ouais, on l'a achetée.
Arrête, tu vas me mouiller complètement.
Oh, ouais, c'est ce que je fais toujours.
Tu veux aller là-haut,
peut-être?
Moi, mon nom.
Garanti.
Je suis la femme de Macha.
Le mari.
Quoi? Le mari?
Qu'est-ce que
j'ai dit
de sa femme?
Retrouve une quête de 10 années. Ignoco veritas.
Pardon?
C'est du latin pour. Laisse tomber.
Reste.
Allez, on adore les invités. Plus on est de fous, plus on rit.
Ok.
Hey! Alexandre, reste pour la suite.
C'est une belle idée. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'inter de l'échelle?
Non,
on l'occupe!
Yamina?
Oui.
Je crois que Natacha et André, ça.
Mais elle vient d'arriver.
Il y a une autre chose.
Pendant que mon frère est là-dedans en train de. Non, c'est dégueulasse. Tu veux jouer à la PlayStation à la place?
Qu'est-ce que vous faites, les gars?
Ouais, on va jouer à la PlayStation.
Je peux venir?
Il n'y a vraiment pas assez de place.
Ok, peut-être que je vais juste aller me branler dans votre douche alors.
Tu t'en. T'es sérieux? Il est sérieux? Ce type me rend vraiment dingue, je sais pas pourquoi t'es ami avec lui.
Il est nerveux. C'est juste que je suis pas bon en société.
Je peux aider pour quoi que ce soit?
Non, assieds-toi simplement, mets-toi à l'aise.
Les assiettes là, tu les veux dehors?
Oui.
Hé, hey, Macha!
Ouais.
Je viens d'avoir un message de Léonard. Il y a quelques-uns d'entre nous à dîner chez lui dimanche soir.
Bah, dimanche quand t'es resté ici?
Bon, il y a 20 minutes, il disait encore que tu voulais partir.
Mais d'accord, mais après, je suis en
tu viens aller tout seul alors?
Bah, oui, fais ça.
Tu mets la voiture?
Oui, s'il te plaît. Oh,
ouais, bébé.
Non, chérie, ce serait tellement plus simple d'aller chez Léonard si j'avais la voiture. Sinon, je vais attraper quasiment trois bus.
D'accord, mais alors pourquoi tu me demandes si je veux la garder?
Bah, j'essayais d'être gentil.
Oui, mais c'est pas très gentil de demander quelque chose.
Pas bien.
Après.
Je prendrai le train pour rentrer. Tu peux garder la voiture.
Théo, il faut vraiment que tu t'achètes ta propre voiture.
L'environnement, chérie. L'environnement.
Voilà pour cet extrait qui donne un peu la, la couleur hein, de ces trois sœurs. Alors, on est quand même plutôt au début du spectacle. On est encore dans un moment où les discussions s'entremêlent, mais ce sera le cas autrement, un peu pendant le reste du spectacle. Fabienne Pascaud, vous voulez commencer ?
Si vous voulez.
Avec joie.
alors, allons-y. Écoutez, moi, c'est un spectacle qui m'a plu. Évidemment, les tchécophiles intégristes s'abstenirent.
Vous n'avez pas attendu longtemps pour placer le mot intégriste, ça ne m'étonne pas de vous.
Bah, oui, non, parce que là, franchement, ils vont être déçus. Ce n'est pas du tout Tchékov, c'est très loin de Tchékov. En tout cas, ce n'est pas la lettre de Tchékov. Mais après tout, toute traduction est déjà une trahison. Donc, le Tchékov qu'on connaît même à travers les traductions les plus sophistiqués, c'est peut-être pas le vrai. Donc tout ça pour dire que c'est autre chose, mais qu'en même temps, dans ce spectacle où on a pu voir que les répliques étaient prosaïques, l'univers parfois vulgaire, les personnages déjantés, se droguant, baisant, buvant, ayant entre eux des relations tout sauf convenables, eh bien ce Tchékov, ça pulse et ça retrouve finalement l'esprit pour moi de Tchékov. Déjà, admirons que chez Tchékov, cette capacité à être réécrit. Parce que finalement, ils sont nombreux à l'avoir réécrit cette année. Julie Deliquet, on a vanté le Vania. Benjamin Poré, dont j'ai vu un spectacle récemment au théâtre au Gémeaux de Sceaux, adapté de La Mouette, Vincent Macaigne au cinéma, et même ce bon vieux Guédiguian qui le réécrit dans La Villa, hein, La Cerisaie. Donc déjà, cette force de Tchékov à être aujourd'hui assumé et mangé par les contemporains. Pourquoi ? Ben parce que ça parle évidemment d'aujourd'hui. C'est une écriture chorale et ça, la mise en scène de Simon Stone le montre bien. Il n'y a pas de héros chez Tchékov. Ils ont à peu près tous la même importance. Les personnages, ils parlent d'ordinaire, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur faiblesse, ils parlent de leur frustration, de leur lâcheté, de leur compromission. Et ça, je trouve que Simon Stone, en le réadaptant et en le trahissant, mais totalement, retrouve cet univers-là de Tchékov. Et finalement, la maison tournante qu'il adopte, comme il l'avait fait pour Ibsen Luis à Avignon, eh bien, pour le spectateur, c'est un vrai plaisir parce que ça, on voit chaque fois les comédiens sous toutes les coutures. Ça les empêche de se cacher, de se dissimuler. Ils doivent être en permanence offerts et bien et bon et dans leur rôle et dans la peau de leur personnage à chaque instant puisque ça tourne et qu'ils ne se rendent pas compte forcément de ce qu'on voit d'eux. Et donc, je trouve, même si la première partie est un peu hurlante, un peu provocante. Moi, c'est un spectacle que je trouve vivant. Et j'aime le théâtre parce que ça vit et que ça bouge.
Bon, premier point de vue très positif donc de Fabienne Pascaud. Lucille Como, sur cette vision de Simon Stone des trois sœurs de Tchékov.
Alors, je ne suis pas du tout une intégriste de Tchékov. Enfin, vraiment, loin de moi, tout fétichisme pour cet auteur qu'en plus, je trouve beaucoup joué. Donc, bon, vraiment, j'étais plutôt contente d'aller voir autre chose précisément que du Tchékov. Pour moi, le problème, c'est que ce ne soit pas Tchékov, ça, c'en est pas un. Mais par contre, je trouve que c'est pas grand-chose par ailleurs. C'est-à-dire que le texte me raconte à moi peu de choses. J'entends beaucoup... Alors, j'ai lu ce que disait Simon Stone, que Tchékov était pour lui un écrivain du présent, qui écrivait dans son présent pour son présent. Donc, il a voulu faire la même chose. Donc, il y a en effet énormément d'allusions. Je sais même pas comment appeler ça, à ce que c'est que le présent... pour Simon Stone, donc il y a des événements d'actualité, l'élection de Trump, il y a des modes, le pilates, le véganisme, il y a beaucoup, beaucoup de références aux nouvelles technologies, de ce qu'on fait de son smartphone, on oublie son smartphone, on le garde pas quand on part en vacances. Pour moi, il y a quelque chose un peu du fourré, je sais pas comment on dit. C'est un peu farci de plein de choses d'actualité, comme pour faire signe en permanence vers le spectateur d'aujourd'hui. Et moi, ça me parle pas beaucoup. Et je trouve que derrière cet effet-là, qui est un petit peu artificiel, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que retrouver Tchékov derrière, pourquoi pas, mais alors moi, je ne le retrouve pas du tout. Et notamment la question de plein de questions, la nostalgie, la question du temps qui passe, mais également les rapports de classe. Mais on le sent pas dans la pièce. Moi, je trouve qu'on le sent très peu, notamment parce que le tempo, et on en reparlera peut-être, il y a un rythme très particulier, vous en parliez, c'est très choral, donc il y a une vraie partition qui est jouée de manière très très rapide, et c'est une vraie virtuosité, ça c'est assez agréable. Sauf qu'à la fin, on est presque déçu, c'est-à-dire que c'est presque passé trop vite, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, les personnages en effet hurlent beaucoup, on est assez peu affecté par ce qui leur arrive. Il y a un manque de chair et de temps, je pense vraiment, de temps. Alors, c'est peut-être pas de la durée, mais c'est quelque chose de l'ordre du temps qui existe dans le théâtre de Tchekhov et qui manque pour ce spectacle-là. Moi, ça m'a laissé très, très à l'extérieur. On est à l'extérieur de cette maison qui tourne et j'étais très à l'extérieur du texte aussi.
Alors, sentiment d'Anna Segalevitch sur ce point, un peu général pour
sur
commencer.
Sur ce point un peu général, moi je trouve que ces personnages sont quand même très bien croqués et qu'il y a une acuité de la part de Simon Stone à transposer qui me paraît vraiment pertinente. C'est pile ma génération, Simon Stone, et je dois dire que c'est vraiment... Il recompose une société autour de ces trois sœurs que je reconnais complètement et qui me parle. Voilà, pour chacun des personnages. Après, est-ce que la grandeur, la noblesse de Tchekhov, ça, c'est discutable.
Il est bien en 84, hein, pour ceux qui veulent savoir l'âge d'Anna.
Donc, et je trouve que la léthargie, l'inertie dont ils sont victimes, ces personnages, et l'incapacité à briser les chaînes, on la retrouve complètement, par des détails, ces rêves qui se fissurent et les déplacements des symptômes névrotiques qu'il y avait sûrement en 1900, je les trouve très très justes aujourd'hui. Enfin, les personnages, je les trouve pile. Après, ça se discute. Pour moi, il y a un problème à appeler ça les trois sœurs. Voilà, je trouve que ça n'a pas de sens d'appeler ça les trois sœurs parce que ça n'est pas du tout les trois sœurs. Oui, on retrouve tous les personnages, on retrouve la psychologie des personnages complètement et moi ça me parle, et je dois même dire que ça me touche. J'ai eu des vrais moments d'émotion pendant le spectacle. En revanche, ça n'a aucun sens d'appeler ça les trois sœurs et par ailleurs... Moi, il y a une chose qui me gêne tout de même, c'est le fait de dire, voilà, quand vous parliez, Lucille, du fait que Simon Stone dise que c'est pour les contemporains, théâtre du présent aujourd'hui, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que un grand texte, il est universel. Quand François monte Tchekhov en reprenant les cahiers de Stanislavski, je suis désolée, mais c'est ici et maintenant, c'est complètement au présent et je ne me pose pas la question du folklore et de ces personnes. La question, c'est comment on fait du théâtre, c'est tout. C'est la question du ink et du nunk dont parle tout le temps Eric Ruff, le ici et le maintenant, et ça, quel que soit ce qu'on fait et la façon dont on transpose et que les personnages soient en costume d'aujourd'hui ou en costume de 1900, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe au présent quand on voit la représentation. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose parce que Tchekhov est très 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 transposé. On a oublié de citer Christiane Jatailly aussi avec les trois sœurs. Donc voilà, il y a beaucoup ça. Pour moi, ce spectacle est dans la veine de celui de Julie Deliquet, pas de celui de Christiane Jatailly, en beaucoup plus poussé, en beaucoup plus radical, mais il est dans cet esprit-là.
Alors, peut-être que, moi je pense que les tchékophiles les plus intégristes doivent être contents, contrairement à ce que vous disiez en ouverture, justement, parce qu'effectivement, c'est l'esprit, et qu'effectivement, la lettre, c'est pas la question qui se pose. Donc, on a bien compris, Tchekhov, c'est du présent, donc Simon Stone nous parle du présent. Pour autant, alors, bon, je l'avais noté aussi, mais pourquoi appeler ça les trois sœurs? C'est quand même une sorte de publicité mensongère un peu idiote.
Mes trois sœurs
2017, enfin bon, n'importe quel titre un peu stupide, certes, mais pas les trois sœurs, c'est quand même gênant. Quand on a pu voir ce qu'a été la chance de certains d'entre nous, la maison Ibsen, puisque c'est la traduction de ce spectacle présenté à Avignon, là c'était très bien dit d'ailleurs, la maison Ibsen, et dans cette maison Ibsen, ils mettaient plein de choses qui venaient d'une bonne demi-douzaine de pièces d'Ibsen, et en travaillant au contemporain, les thématiques d'Ibsen, les traumatismes familiaux, la transmission de génération en génération, les problèmes de couple. Et ça, c'était tout à fait pertinent de le transposer aujourd'hui. Il arrivait, comme il en parle ici, aux crises migratoires. Qu'est-ce que c'est que la notion d'accueil dans une maison? Bon, là, je dois dire que moi, j'ai un peu ressenti ce que disait tout à l'heure Lucille Como, c'est que, bon, c'est trivial, pourquoi pas, mais Tchekhov parlait de façon aussi triviale, hein, si on reprend les textes, mais vraiment parler de son époque d'une façon tellement, avec une vision tellement aiguë, tellement précise, à la fois dans le constat, mais aussi dans les perspectives. Enfin, il y a quelque chose de visionnaire chez Tchekhov, parce que c'est ce monde qui s'éteint, qui précède la révolution soviétique. C'est écrit déjà dans Tchekhov. Je ne sais pas bien ce que Simon Stone nous montre comme perspective.
Aussi un monde qui bascule.
Oui, mais ça, d'accord, mais ça, c'est pas une nouveauté.
La modernité d'aujourd'hui, on ne sait pas où elle va nous mener. Mais la mondialisation d'aujourd'hui,
Tchekhov nous annonce quand même la révolution, annonce une industrialisation plus grande.
Annonce un monde qui bascule.
Oui, Anna Segalevitch, vous avez une réponse?
Non, je n'ai pas de réponse
à cette question-là.
Mais c'est sûr que ce n'est pas visionnaire. C'est pas... Mais moi, ce qui est intéressant...
On reste dans le constat.
Ah bah, Et ben, moins pour moi que chez Christiane Jatailly. Parce que déjà, on part pas du même endroit.
Parlons de ce spectacle-là. Mais...
On nous montre des gens qui ont déjà les rêves rétrécis avant que ça commence. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un peu blasés, ils sont déjà un peu désabusés. Et on nous montre une perpétuelle nostalgie. La Irina, elle va à Berlin et elle est déçue quand elle va à Berlin parce que...
Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ces signes qui nous mettent en permanence, c'est les signes qu'on voit dans la société d'aujourd'hui, en permanence. On nous signifie toujours.
Oui, mais c'est un constat, voilà.
C'est pas surtout, plus qu'un constat, c'est thématisé. C'est-à-dire qu'il y a en effet des discours sur la nostalgie. C'est-à-dire qu'il y a un monologue, enfin non, c'est plutôt un dialogue d'ailleurs. Je crois que c'est entre Nicolas et Macha. À un moment donné, un personnage, je crois que c'est Nicolas, fait toute une diatribe sur ce que c'était les années 60 et qu'on a tout perdu, les idéaux, et qu'aujourd'hui on n'est plus dans un monde politique. Voilà. Et Macha répond quelque chose de très différent. Voilà. Donc là, il y a une sorte de confrontation. Donc c'était, enfin moi, je vois très bien, je vois ce qu'il veut faire. Il thématise quelque chose de l'ordre de la nostalgie et de ce que c'est. Ce que sont les années 2000 par rapport aux années 60. Sauf que ça ne répond à rien dans la forme, je trouve. Et du coup, c'est juste des petits placements de produits. Je ne sais pas comment expliquer autrement.
C'est une société très bien croquée. Comme un peintre.
Je ne trouve même pas qu'elle soit bien croquée. Ce n'est pas parce qu'on parle de Trump et d'iPhone que ça croque quelque chose.
Pour moi, quand on explique que le général, donc le père dans Les Trois Sœurs, là, c'est un type qui a du pouvoir, qui a organisé des grandes fêtes chez lui, on comprend que les filles étaient écrasées par ce père qui trompait la mère sans arrêt et qui est parti pendant quelques mois avec une sculptrice brésilienne et qui est revenue et qui l'oubliait leurs anniversaires. Ça, c'est Simon Stone qui l'invente totalement, évidemment. Mais moi, je trouve que ça raconte quelque chose et que ça raconte quelque chose des trois sœurs. Je les comprends bien par cette explication. En tout cas, voilà.
Et
c'est truffé de petites choses comme ça, de petits détails comme ça que je trouve pertinents.
Le fait que Simon Stone travaille déjà l'écriture, elle lui appartient pas peut-être totalement non plus, parce c'est beaucoup à base d'improvisation, c'est les acteurs qui bossent, qui inventent aussi ce dialogue. Mais ce que je trouve, malgré la faiblesse parfois et les facilités un peu clin d'œil de l'écriture, c'est qu'il y a quand même une rapidité scénaristique, c'est presque le loft, c'est presque de la télé-réalité, c'est presque du feuilleton, mais c'est aussi un vrai plaisir de l'histoire pour le spectateur. Et le personnage du frère, par exemple, qui est admirablement interprété par Eric Caravaca, il a tout à coup une dimension qu'il n'a pas toujours dans le texte. Ça donne de la matière aux acteurs. Céline Salette, elle est formidable. Beaucoup d'entre eux sont formidables. Et puis alors là, moi je vais vous dire, j'ai peut-être tort de le dire, mais il y a deux noirs sur le plateau. Des acteurs noirs, alors évidemment le dire, c'est encore signifier que... Bon, bref. Mais je trouve ça formidable que Simon Stone, il est un des rares à avoir amené deux acteurs noirs dans une pièce à l'Odéon, et ben ça fait plaisir aussi.
Dont l'un, Jean-Baptiste Hanoumoun, était déjà présent dans Soudain l'été dernier, mis en scène par le patron de l'Odéon, Stéphane Braunschweig.
Oui, mais il y en avait qu'un.
J'entends bien, je signale que ces excellents acteurs...
Qui étaient dans ce film La vie de château, très amusant cet été.
Pas vu. Donc,
Jean-Baptiste Hanoumoun, c'est un bon acteur.
Vous nous le conseillez.
Le personnage est intéressant.
Il faut dire quand même, il faut quand même parler de l'excellente direction d'acteur. Moi, j'avoue que si j'ai passé une bonne soirée, moins bonne que celle d'Ibsen Huys, enfin bonne soirée, vous voyez ce que je veux dire, intéressante, c'est quand même la direction d'acteur que moi j'ai trouvée assez fabuleuse. Eric Caravaca, Laurent Papeau, qui est quand même un acteur que je trouve extraordinaire, mais c'est valable pour à peu près l'ensemble de la distribution, vous voulez dire, Anna?
Oui, pour expliquer la transposition, par exemple, du personnage du frère, c'est amusant ce frère, donc pas du frère, pardon, du mari de Macha, j'ai un trou sur le nom, Kouligine, voilà. Donc là, habituellement, donc c'est l'instit qui devient directeur de l'école, et là, c'est donc une sorte de winner de lycée qui demande, après avoir fait l'amour à sa femme, est-ce que c'était bien, qui met des photos sur Instagram.
Vous en tombe.
Mais c'est des clichés, tout ça. C'est une sorte de ramassis de clichés de ce qu'on croit être le contemporain. Ça ne fait pas un personnage.
Fait un personnage. Pourquoi c'est cliché de mettre un tablier le week-end? Il y a des gens qui sont comme ça. Ça croque un personnage.
Et il y a Virginine, enfin sexy, à Saad Bouab, qui est magnifique.
Oui.
Magnifique.
Ça change.
Vous trouvez que c'est un cliché?
Oui, alors moi, vraiment, je suis restée totalement extérieure. Mais vraiment. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très anglo-saxon, à la fois dans la manière de diriger les acteurs et puis d'écrire.
Certes.
Bon, c'est un tout, puisque la langue est tellement importante. Et dans cette manière-là, très à l'anglo-saxonne, d'ailleurs, je pense que le texte a été retraduit. Donc c'est très bizarre aussi, la langue.
De l'anglais vers l'allemand, vers
voilà,
le français, mais avec les acteurs aussi présents.
On entend beaucoup d'anglicismes. Les putains d'eux, les mecs. C'est
bah,
des choses
à très. Moi,
j'entends.
Lucille.
Non, là, il y a quelque chose d'artificiel dans la langue qui est lié au fait que ça a été écrit dans une autre langue et que c'est très... Il y a quelque chose de cinématographique et de télévision. Exactement. Je me suis vraiment posé la question
alors là,
quand ça a commencé.
Franchement, c'est la langue que tout le monde parle aujourd'hui.
Ah non.
Alors là,
non,
ah,
mec,
je suis vraiment
non.
Pas d'accord.
Les gens disent pas mec.
Je pense pas.
Les gens disent quoi, Aïssa Tounedoy? Non, mec, non, c'est
mec. Non, mais
c'est
on n'interpelle pas
man,
en disant
c'est pas...
mec.
Non.
C'est très américain, c'est de la vie.
Des garçons mecs.
Non, on dit gros, mais on ne dit pas mec, Fabienne.
Bah oui, on dit
gros. Bah oui. Alors gros, on ne dit pas alors mec.
On
bah, bon.
Pas, on
est en 2017.
Gros, c'était en 2000.
Non, ça marche toujours. Bon, que disent les gens, eux, sur Twitter? Est-ce qu'ils nous appellent gros ou mec, Aïssa Tounedoy?
Pas mal de messages, un message de Christophe Despo, les trois sœurs dans la mise en scène de Simon Stone sont gluantes, de gloss, certifiées 100% d'aujourd'hui. Il souligne que si les acteurs sont impeccables et n'ont rien à se reprocher, on n'en dira pas autant de Monsieur Stone qui, du haut de ses 33 ans, décide de réécrire un sommet du théâtre mondial pour le transformer en sitcom frénétique. Certains auditeurs mettent d'ailleurs en avant le fait que la pièce a beaucoup plu aux jeunes et aux ados. Certains pointent que ce serait dû justement à une écriture très série, d'autres pour un côté télé-réalité. Sinon, B. Beltier pointe l'absence de la musique tchékovienne, la douleur, l'humanité, plusieurs messages qui pointe le manque d'émotion en fait du spectacle. Et pour Pampan, Cultu, c'est un spectacle excellent, une transposition très réussie, précise, rien ne sonne faux. La scénographie est elle aussi est aussi pertinente que Ibsen Huys. Et pour Léa Chauvel, Lévy en revanche, c'est une catastrophe, un sous-film.
Bon.
Donc c'est assez mitigé.
Non, mais un peu de sirop pour votre gorge, ce sera la fin de l'émission. Je vais vous solliciter encore à Aïssatou. Réaction à ce qu'on vient d'entendre, Anna Sigalevitch?
Mais j'entends complètement. Ouais. Oui, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de transcendance absolue.
Il n'y a pas une émotion,
absolue.
On n'est pas en larmes quand même.
On n'est pas traversé, non,
d'accord.
Je suis d'accord.
Fabienne Pascaud, vous avez été très émue, vous?
Non, pas trop, mais je ne me suis pas ennuyée, j'ai pas vu l'heure passer. Et c'est bien, moi, la petite musique de Tchékov, c'est bien, c'est sympa, mais enfin, c'est un peu mièvre aussi, là, si ça réveille.
Mièvre, Tchékov?
Ça peut être mièvre.
Non, mais
ça
pas.
Peut être mièvre, je ne parle pas de Tchékov, je parle des mises en scène de Tchékov.
Ah oui.
Donc, bon.
Bon.
Moi, je trouve ça bien qu'on s'empoigne un auteur comme ça, qu'on le trahisse, qu'on le blesse, qu'on le...
Ça
prouve qu'il
est
vivant.
Tout dépend de ce qu'on en fait.
Oui, c'est
dernier.
Il y a deux débats différents.
Pour moi, c'est intéressant.
Bon, intéressant. Ce sera le mot de la fin prononcé par Fabienne Pascaud concernant les trois sœurs. Enfin, bon, d'après Anton Tchékov, mise en scène Simon Stone, c'est jusqu'au 22 décembre à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Il me semble bien qu'il y a d'autres dates, mais je suis en train de les chercher. Oula, en faisant du bruit sur mon micro, mais c'est pas grave. Je vais retrouver ça, voilà, du 8 au 17 janvier au TNP à Villeurbanne, du 23 au 26 janvier, ce sera à Turin, à Anvers, du 1er au 3 février, et puis retour en France, 16 et 17 février, au Quai à Angers. À suivre dans la dispute, Alexis Michalik et Julie Berès.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée de lundi soir au spectacle vivant avec le nouveau succès d'Alexis Michalik après Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes et Edmond, la pépinière théâtre ne désemplit pas depuis la rentrée avec Intramuros, une pièce que Michalik a créée au Théâtre 13, théâtre auquel il est fidèle. Au printemps dernier, l'auteur et metteur en scène nous propose cette fois de suivre un atelier de théâtre dispensé dans une centrale, je parle d'une prison, mais avec seulement deux détenus, mais aussi une assistante pour le metteur en scène et la présence d'une jeune femme, elle assistante, mais sociale et débutante.
Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion.
Bien sûr.
Parce que vous savez, hein, lorsqu'un acteur se laisse déborder par son émotion, ça peut être très impressionnant.
Ah oui.
Ouais, surtout s'il n'est pas professionnel. Un amateur peut vivre des choses extraordinaires sur un plateau de théâtre, plus extraordinaire que dans la vraie vie.
Ils sont combien? Là, ici, les...
Oui, alors ici, il y a 110 détenus et environ 300 gardiens qui se partagent entre la centrale et la maison d'arrêt. Mmh. Vous voyez ce que c'est, une maison d'arrêt?
Eh ben, une prison.
Alors, la maison d'arrêt, c'est là où vont les prévenus avant que le jugement soit rendu. Ou alors, c'est des courtes peines. De la petite délinquance, enfin, en général. Quand ils sont condamnés à des peines supérieures à 8 ans, alors ils viennent ici, en centrale.
Et ceux qui sont ici, ils sont là pourquoi?
Ben, ça dépend. Association de malfaiteurs, grand banditisme, braquage avec violence, meurtre, viol, infanticide...
On pourrait leur faire jouer Sophocle.
Mais ceux qui vont en venir, là, ils ont fait quoi?
Ben, je sais pas, je les connais pas tous. Mais leur posez pas trop de questions sur leur vie, en tout cas au début. Laissez-les venir à vous.
Et ils seront combien à peu près?
Ben, il y en aura peut-être 10, 15 maximum.
Voilà pour cet extrait qui s'arrête de façon un peu abrupte concernant Intramuros, actuellement à l'affiche de la Pépinière à Paris. Et on commence par un tweet en fait.
Un tweet de Renaud Creuse qui trouve intéressant de rassembler Simon Stone et Alexis Michalik, deux créateurs marqués par le rythme et l'écriture de la série TV, avec une volonté pop de remettre du romanesque dans le théâtre.
Voilà, un auditeur qui souligne la qualité de cette programmation. Il faut bien qu'on le fasse entendre. Pas complètement faux, d'ailleurs. Quand j'ai lu ce tweet, je me suis dit, bah, effectivement, il y a de cela. Lucille Comeau.
Oui, qui ont le même âge aussi, donc on a quelque chose de générationnel aussi. Alors, donc c'est...
Intramuros.
On est donc à la Pépinière, c'est une toute petite scène, déjà, de théâtre. Quand on va peu dans des petits théâtres comme c'est mon cas, on se rend compte déjà de ce que c'est que de jouer dans un petit espace. Donc il y a quelques chaises, il y a un petit lit, une table, il y a une installation à droite sur laquelle quelqu'un s'occupe de la musique et des effets sonores en général. Et alors ça commence par une adresse directe au public. Un des acteurs qui se révélera être le metteur en scène dans la pièce pose des questions très vagues, avec des réponses aussi très vagues sur ce que c'est que le théâtre et ce que c'est qu'être acteur. Heureusement, ça ne dure pas. L'action se mettant en place, on est donc en prison. Un metteur en scène et son actrice, qui est aussi son ex-femme, vient donner un cours de théâtre aux détenus. Et en fait, de détenus, on se rend compte qu'il n'y en a que deux. Donc il y a très peu de personnages sur la scène.
5 si j'ai bien compté. Hein.
Oui, tout à fait. Alors au début j'ai eu un peu peur, moi j'ai jamais vu de pièces de Michalik et je vais jamais, il faut le dire, dans ces petites salles, je vais jamais voir ce type de théâtre-là.
Pardon Lucie, mais c'est pas considéré qu'une petite salle, c'est pas ça une petite salle. Hein.
La scène elle est très petite.
C'est pas la loge.
Ouais, mais vous vous rendez pas compte, ouais. c'est pas une petite salle.
C'est pas la ménagerie de verre.
Ah, oui,
vous allez plus souvent à la ménagerie de verre qui est beaucoup plus petite.
Mais c'est vrai, mais ça me fait pas le même effet, je sais pas pourquoi.
Ah, c'est pas
ça, ça me paraît vraiment petit. Mais c'est parce que c'est la manière dont c'est... Bon, je vais en parler.
Mais c'est pas le petit Montparnasse, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. La pépinière, pardon, mais c'est pas un petit théâtre.
De 400 ou 500 places, non?
Il y a du monde, mais c'est la scène, je trouve, qui est très ramassée.
Tout petit plateau.
Très, très proche. Bon, en tout cas, j'ai eu un petit peu peur. Et j'ai vraiment commencé par noter ce qui m'énervait. J'ai toujours un petit carnet, donc le jeu, ça m'énervait un petit peu, la simplicité des dialogues, le côté très artisanal de cette mise en scène. On prend les meubles, on fait un peu ce qu'on veut avec. Et puis, finalement, j'avoue, j'ai été totalement prise par le récit. Je suis assez moi-même surprise de dire ça. Je trouve qu'il y a une vraie virtuosité dans la manière d'écrire d'Alexis Michalik, vraiment. Je trouve qu'il réussit à construire un récit avec des effets de couture extrêmement simples et extrêmement rapides. Il a un sens du rythme assez étonnant. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de retournement, de révélation familiale, le tout concentré dans très, très peu de temps. Je ne sais plus combien de temps dure la pièce.
1h25.
C'est beaucoup plus long, ça dure 1h50.
Oui.
Bon, je ne me rappelle plus.
Non, c'est long, c'est long.
Je confonds alors. Fabienne, maître des...
1h50.
Allez.
Voilà, je trouve que c'est une bonne pièce, c'est un bon récit mis en scène de manière assez virtuose.
On creusera tout ça après cette première impression de Lucille Comeau. Anna Segalevitch.
Alors, les effets de couture dont parle Lucille, je suis d'accord, mais je trouve qu'on les voit, les effets de couture. Voilà. Et je trouve que c'est quand même un peu problématique parce que voilà, les ficelles me paraissent quand même un petit peu épaisses, comme dans Edmond, hein, d'ailleurs, où on sentait aussi les ficelles. Après, oui, complètement, il y a vraiment de l'habileté, il y a un savoir-faire, il y a une mise en scène. D'ailleurs, je pense que j'ai préféré à Edmond. On sent quand même la volonté d'embarquer le spectateur dans un récit avec...
On ne peut pas lui en tenir grief.
Comment ?
On ne peut pas lui en tenir grief.
Non, absolument, on ne peut pas lui en tenir grief, avec un désir d'efficacité. Et en effet, c'est un spectacle qui est efficace, où il y a les ingrédients qu'il faut, c'est-à-dire de l'humour, du rythme, un retournement de situation, une surprise, de l'émotion, un peu de pathos. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon spectacle. Et objectivement... c'est un bon spectacle. Pour moi, c'est un spectacle qui est trop bétonné. C'est un spectacle où je vois où on va aller. Et donc, j'observe ça avec un manque de curiosité, en fait. Parce que, alors, je dis pas que je savais comment ça allait se terminer, pas du tout. Mais la façon dont ça se décale, au fur et à mesure que ça se construit, me surprend peu. En revanche, et c'est là où je suis à la fois surprise et où j'ai eu vraiment un vrai plaisir de spectateur, c'est que là où c'est bétonné dans la construction, dans la mise en scène, dans la musique, dans toute l'élaboration du spectacle, ça n'est absolument pas, à mon sens, du côté des acteurs. Parce que je trouve qu'il y a quelques acteurs qui ne sont pas virtuoses, qui sont touchants, qui ont vraiment quelque chose d'une vérité et d'une fragilité et d'une faiblesse et qui prennent des risques sur scène et du coup ça génère une réelle émotion et donc c'est assez paradoxal de voir un spectacle très ficelé avec des acteurs un peu sans filet justement donc ça m'a plu.
Fabienne Pascaud, Intramuros, Alexis Michalik, la Pépinière Théâtre.
Anna a dit exactement ce que je ressentais, ce que je pensais.
Bon, bah, vous passez votre tour alors. On va voir sur le troisième spectacle.
Non, moi je suis pas fan de Michalik parce que je trouve que c'est admirablement virtuose dans la narration, dans l'histoire. Je sens l'artisanat de grand luxe. C'est bien fait, c'est bien raconté. C'est vrai qu'il y a un plaisir du spectateur. On parlait de Tchekhov tout à l'heure. Je me moquais des mises en scène un peu mièvres parfois sur la petite âme des personnages de Tchekhov. Mais ceux de Michalik, franchement, c'est assez ras la casquette, quoi, quand même. Donc, c'est pas très fouillé au point de vue des personnages. C'est sa manière de faire du théâtre qui m'agresse. Il n'y a pas beaucoup de lâcher prise, il n'y a pas beaucoup d'imagination, il n'y a pas beaucoup d'entre les mots, il n'y a pas beaucoup d'espace où on pourrait rêver, où on pourrait. Non, là, tout est fait, admirablement bien fait, on suit ça, mais so what, quoi.
Ouais, so what. Comme vous parlez anglais, c'est mauvais signe, Fabienne Pascaud.
Et Alice de Lincsin, et je trouve fabuleuse. La plupart des acteurs sont tous bien, mais pour moi c'est trop cousu main.
Alors quand vous dites artisanat de grand luxe, pas dans les moyens. Il faut pas que nos auditeurs comprennent moins. C'est-à-dire c'est un très bon artisan. C'est ça que vous vouliez dire.
Bon,
c'est
artisan. Parce que oui, oui, oui,
on peut pas dire qu'il y a une débauche de moyens. Voilà.
Ah, non,
je voudrais pas que ce soit mal entendu par nos auditrices et auditeurs. C'est fait vraiment avec, pour le coup, des bouts de ficelle et beaucoup de roulettes, parce qu'il aime bien les roulettes, parce qu'on peut changer les décors rapidement. Moi, j'avais dit ici, la saison dernière, que je comprenais tout à fait le succès de Michalik, en ayant vu Edmond. Et c'est vrai qu'on retrouve les recettes, le système, vous l'avez dit, hein, ça va très vite. Les scènes, il ne faut pas qu'elles soient trop longues, parce qu'il ne faut pas que le spectateur s'ennuie. Il faut pouvoir changer les décors rapidement, remodifier l'espace. Du coup, les roulettes sont utiles. Avoir la gamme d'émotions dont vous avez parlé.
Les pièces à tiroir, quoi.
Les pièces à tiroir. Alors, voilà, c'est vrai que moi, et en sortant, après que la salle ait applaudi à tout rompre, j'ai entendu que des commentaires absolument réjouis aussi des spectateurs et spectatrices qui étaient là. Donc, ça marche. Mais c'est vrai que autant le récit d'Edmond m'intéressait quand même par la dimension historique, même s'il prenait beaucoup, beaucoup de liberté, ce qui me gênait avec l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac. Il y avait quand même un effet de troupe. Ils étaient 12. Alors, ça jouait peut-être moins bien, je suis pas sûr. Je trouve que ça jouait à peu près pareil. Mais là, à 5, je trouve que c'est quand même plus difficile d'être emporté par l'énergie. Je trouve qu'il y avait quand même des énergies un peu contradictoires sur le plateau et je trouve que ça, c'était très déséquilibré, ça va être le bon mot. Et puis les péripéties de l'histoire, vous parlez des tiroirs, c'est un peu comme Shyamalan au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a tellement de rebondissements que franchement ça ne m'intéresse même plus de savoir quel sera le dernier rebondissement.
On dirait un manuel pour scénario, écriture de scénario. Alors pour écrire un bon scénario,
c'est l'écriture série américaine aussi.
Ouais, hein. Alors là il a mis sans doute dans une volonté peut-être de moderniser de la musique en live sur le plateau. C'est quand même pas pardon pour le musicien, mais c'est pas la meilleure idée non plus formelle du spectacle, m'a-t-il semblé. Bref, voilà, moi je suis sorti quand même, pas dire que je me sois ennuyé, mais j'ai trouvé que moi la qualité de jeu était pas bonne d'une façon générale.
C'est vrai ?
Ah oui, vraiment.
Oh, mais Alice de Lincsin et Bernard Blanquant quand même,
oui,
moi j'ai adoré Bernard Blanquant.
Ah oui, c'est vrai, bon j'ai pas senti la même chose, mais...
La voix la plus enthousiaste, c'est celle de Lucille Comeau.
Non, mais au-delà de l'esthétique un peu série télé et le côté briquet de broc, ça, c'est quand même un théâtre qui regarde vers des illustres ancêtres. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnages qui parlent à un moment donné de Hugo, de Dumas. Bah, pour moi, il y a quelque chose vraiment, à la fois du roman, mais le mauvais roman du 19e, entre guillemets, le Eugène Sue, peut-être le Soubal, tout ce qui était sous Balzac, sous Dumas.
Pas non, si mais nul que ça.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, le roman populaire de cette période-là.
Celui qu'on lisait dans les journaux, vraiment.
Moi, je pense que c'est cet effet-là qui est recherché et que de ce point de vue, ça fonctionne très bien. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais de la même manière, les acteurs, à la limite, le jeu, il fait partie de toutes les mécaniques qui sont mises en place et qui sont des mécaniques implacables. Donc, moi, je me suis même pas posé la question du jeu. Tout est au service du récit. Et ça, c'est un théâtre qui s'assume comme un théâtre du pur récit. Et je trouve que, de ce point de vue, c'est intéressant. Et bon, vous dites « so what ?» Moi, par exemple, ça m'a fait un petit peu réfléchir en sortant. C'est tellement... En effet, on voit tellement les coutures, comme vous dites et comme vous le disiez aussi, Fabienne, que finalement, on revient à des sortes d'arcanes ou de primaires archaïques du théâtre. C'est-à-dire que ce que c'est que faire du théâtre sur une scène avec des bulles, machin, voilà, on n'a pas de café, bon, bah, on fait semblant de boire un café. C'est bête, mais moi, ça m'a reposé des questions sur ce que c'est que la représentation, ce que c'est que jouer une histoire sur une scène. Vraiment.
Mais ça, c'est quand on va trop au théâtre. Non, mais sérieusement, mais c'est vrai que nous qui allons quand même au moins 3 ou 4 fois par semaine au théâtre, du coup, et beaucoup au théâtre public, il faut être. Voilà, il faut dire la vérité.
La Michalik, il en vient aussi. J'ai dit créer au théâtre 13, hein,
oui,
ce spectacle.
Vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà, on peut aller quand même vers une certaine abstraction, vers tout ça. Hein. Là, il y a une sorte de retour au hop, les points sur la table, on fait du théâtre comme ça. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça, il y a un côté presque scolaire et pédagogique.
Et ça parle beaucoup aux jeunes, hein, qui viennent.
À toutes les générations, j'ai eu l'impression que ça parle à plein de générations. Ouais. Mais ce que vous vouliez dire, peut-être, on pourrait le résumer autrement, Lucille Comeau, c'est du bon théâtre populaire, et c'est pas du tout péjoratif que de dire ça, c'est-à-dire qu'il s'adresse au plus grand nombre, en mettant quand même des sujets. Alors, c'est quelque chose qu'on a dans les tweets qui sont arrivés,
et cette Osdoy. Tweet, pardon.
Tu n'avais plus de voix.
Ma mère vient de l'Est, c'est pour ça. un message d'Écossène. Le spectacle fonctionne comme d'habitude sur la forme, mais on aimerait, après Le Porteur, Le Cercle et Edmond, qu'Alexis Michalik s'attaque enfin au fond. Il rajoute que l'univers carcéral est plus ou moins bien représenté et que l'histoire reste vraiment candide. Et nous avons un autre message de Justine qui nous dit que Michalik renoue avec le théâtre plus sobre de ses débuts, mais qu'elle a fini par se lasser de ses histoires avec Porteur et qu'elle ne se laisse plus si facilement embobiner par ses illusions. Le fond est creux, facile et limite douteux.
Ah, douteux, bon, ça il faudra expliciter, hein. il faut
poursuivre. En dessous, elle rajoute faut-il que les prisonniers soient injustement accusés pour que l'on se préoccupe de leur sort.
Non. Mais,
non mais...
Anna Segalevitch.
Ah oui, mais c'est pas absurde ce qu'elle
dit. J'avais envie d'une précision, parce que...
Il y a quand même un côté bon sentiment, une sorte d'humanisme un peu naïf. C'est vrai que le récit, par exemple, de Kevin, c'est pas possible. C'est un cauchemar, franchement. C'est-à-dire que donc, ce Kevin qui est en prison, donc il est en prison parce que, quand il était petit, il vivait avec ses 12 frères et sœurs dans la même chambre, que son père battait sa mère, qu'ensuite son père...
Le mélo.
Et... Non mais le mélo, je veux bien... Non mais là, c'est le pathos. Là, c'est on en fout sous le clou de chaque truc. C'est-à-dire qu'il en loupe pas une.
C'est une forme.
Comment ?
C'est une forme presque, en fait. C'est même pas du fond. Enfin, là, la question se pose même pas de discuter de l'idéologie, de quoi que ce soit, de ce qu'il y a derrière ce personnage. C'est une pure forme mélodramatique qui engendre, vu que c'est une victime, hop, ça engendre
oui,
de l'empathie.
Oui, mais ça nous dit quand même, vous voyez, on a tous un gros. Ah, quand même.
Alors vous voyez les clichés chez
Simon Stone et pas chez Michalik. Ou alors ça me dérange moins parce que c'est assommé.
Il les utilise par la bronchitude.
Il les utilise par la bronchitude de Simon Stone.
Non, il les utilise pas du tout de la même façon parce que c'est pleinement assumé chez Michalik et c'est quelque chose de l'air du temps.
C'est assumé aussi chez Simon Stone. Il joue avec les clichés.
Ils sont pas du tout au même endroit du théâtre et de la façon de représenter des personnages justement. Enfin, il me semble. Bon, on va pas finir ce débat ce soir sur ce sujet.
C'est intéressant de voir les deux en même temps.
C'est intéressant de le comparer au troisième spectacle dont on va parler dans un instant. Si, réellement. Pour l'heure, nous parlions en effet de Intramuros. Il n'y a plus d'autres messages à Issatou, tant que vous avez encore un peu de voix.
Non, plus de tweets.
Intramuros d'Alexis Michalik, ce sera au Théâtre de la Pépinière jusqu'à, j'imagine, très très longtemps. Il n'y a pas de date de fin, il va sans doute jouer. Et on lui souhaite toute la saison.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant nous permet d'aller au théâtre de la commune d'Aubervilliers, comme en hommage à Jack Ralit, mort il y a quelques jours, le maire pendant longtemps de cette ville et qui était si souvent présent dans les salles de théâtre, Jack Ralit. Voilà, une pensée vers lui. C'est Marie-Josée Malice qui dirige ce théâtre depuis bientôt 4 ans. Elle y mène un travail remarquable. C'est qu'elle a une très grande exigence artistique, mais également une forte implication politique. Cela passe notamment par ce programme qu'elle a inventé, les pièces d'actualité. C'est une invitation qui est faite à des artistes de répondre à cette question. De point, ouvrez les guillemets, la vie des gens d'ici, qu'est-ce qu'elle inspire à votre art? Ils sont nombreux et nombreux à avoir répondu. C'est la pièce d'actualité numéro 9 qui est en ce moment à l'affiche et c'est Julie Berès qui a répondu. Le titre de son spectacle, Désobéir.
Si je vois une femme voilée, alors pas pour des moments précis ou des fêtes, hein, mais si je vois une femme voilée qui toute la journée, elle a un truc qui la... enfin, qui donne pour moi une sensation qui est pas super agréable, j'ai toujours ce doute-là de me dire, mais est-ce que cette femme... elle est vraiment libre. Enfin, moi, je pense que ça me relie à une idée de soumission. Ça me donne une idée de soumission.
Est-ce que je peux commencer? J'aimerais bien me prononcer là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire, moi aussi, parfois. Je peux avoir des anticipations. Spontanément, ce qui peut m'énerver dans toutes les polémiques sur le voile, c'est en quoi est-ce que c'est plus oppressant? Qu'est-ce que c'est que le joug? En fait, parce que le joug, c'est pas que... je trouve pas que ça ait plus que ce soit plus dérangeant. Je trouve pas forcément qu'une fille hyper sexy soit plus féministe ou plus libertaire. En tout cas, je m'interroge là-dessus. Je pense que là aussi... enfin, je trouve qu'on est... voilà, c'est ça. Enfin, je trouve qu'on est, mais c'est vraiment pas contre toi et je partage cette chose-là. J'ai vécu ici, donc j'ai cette mentalité aussi. Je trouve qu'en Occident, je trouve qu'on a un peu le monopole de la civilisation un peu tout le temps. Et du coup, je trouve que c'est bien de temps en temps de regarder ses propres joues. Enfin, ses propres systèmes de pression aussi, qui sont peut-être moins clairs, mais qui sont tout aussi efficients et visibles. Je pense qu'on n'est pas aussi libertaire et libéré qu'on veut bien se faire croire.
Eh, mais vous savez, il n'y a pas que la religion qui opprime les femmes, hein. Demain, tu prends un taf. Tu fais le même taf qu'un bonhomme. Bah, bizarrement, très bien payé. Pas besoin de la religion, en fait, hein. Mais ici, on est deux à croire, et on porte pas le voile pour autant.
Bien sûr, on n'en a pas la moindre envie, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est pas pour une chose, c'est pas parce que je me dirais je me sens soumise subitement, oui, pour moi c'est presque de l'ordre du... c'est pas mes aspirations, c'est pas mon histoire, c'est pas les choses qui me touchent, je suis pas reliée à cette religion du tout, donc j'ai aucune raison de le faire.
Voilà pour cet extrait de Désobéir, pièce d'actualité numéro 9 à l'affiche du Théâtre de la Commune à Aubervilliers, qui commence dans cette petite salle de la Commune, plateau vide, enfin il y a des tapis au sol, des bouts de moquette on va dire, qui vont servir aussi. 4 jeunes femmes qui arrivent en marchant en rang serré, font des entrées, une sortie, une nouvelle entrée, et puis elles vont s'individualiser et se regrouper selon les moments de ce spectacle. Alors Lucille Comeau et moi, on l'a vu cet après-midi, alors c'est tout frais, je dois dire. Anna Segalevitch, pour commencer.
Alors moi, je l'ai vu samedi. C'était toute une histoire, il y avait le feu à Aubervilliers, donc c'était très compliqué d'accéder, ça a commencé en retard, etc. Bon, le spectacle a tout de même eu lieu. Je dois dire que c'est étonnant, ce spectacle, enfin, de parler de ce spectacle 15 jours après le spectacle d'Ahmed Madani, Flamme, qui a vraiment exactement la même structure. C'est-à-dire des jeunes femmes qui prennent la parole, face publique. Là, elles sont 4, elles étaient 10 dans le spectacle de Madani. Mais bon, il y a vraiment des similitudes avec leurs témoignages, leur vie. Elles prennent des accents de leurs parents, pareil. Voilà, ce sont des jeunes femmes issues de la première, seconde ou troisième génération. D'immigrés. je mets les mots à l'envers.
Excusez-moi.
Voilà. Mais je dois dire que, donc, je vous avoue que j'y allais un peu à reculons.
Méthode Pascoe, bien connue. C'est comme ça qu'on aime.
En me disant, ça va être comme Flamme, ça va pas me plaire. Et ben pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui m'a gênée dans Flamme et ce qui m'a manqué dans Flamme, c'est que, à mon sens, le social prenait pas sur le culturel. Et là, pas du tout. Là, pour moi, il y a du théâtre, il y a de la fiction. Déjà, il y a 4 personnalités, elles sont fabuleuses, ces 4 filles. J'aimerais bien savoir qui est qui, mais on ne sait pas. J'ai juste repéré une, mais les autres, j'ai cherché sur Internet, on ne sait pas qui.
On a les noms, voilà.
Qui joue qui. Voilà, on a les noms. Sephora Pondy, Lou Adriana Bouziane, Charmine Fariborzi et Atis Auser.
Alors Atis, elle est interpellée, donc on peut la repérer dans le
Charmine
spectacle.
Charmine aussi.
Ah oui, j'ai pas fait attention. Bon,
ouais, c'est parce qu'elle s'appelle par leur prénom. Noire,
oui,
qui est particulièrement sublime.
Oui, ouais, voilà, donc ça, j'ai vu
notamment
parce qu'il y a sa photo sur Internet, mais
ouais,
absolument. Et alors, je trouve qu'elles ont un panache, ces filles, qu'elles ont une insolence qui est vraiment élégante, qu'elles refusent le monde tel qu'il est, mais mais à leur façon, c'est-à-dire avec, avec sourire, avec, avec de l'humour, avec de l'autodérision. Et on sent qu'elles sont, voilà, elles n'ont pas forcément grandi dans des contextes simples, mais que le but, c'est de ne pas être une victime, et c'est comment trouver son espace de liberté dans tout ça. Et je trouve que c'est extrêmement réussi. Voilà, ça m'a beaucoup plu.
Fabienne Pascaud.
Ah oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce travail, la démarche de Marie-Josée Malise, qui est donc la patronne d'Aubervilliers, comme vous disiez, et aussi la patronne du Saint-Déac, et qui est une fille formidable dans ce qu'elle entreprend là-bas, parce que c'est pas évident de demander à des artistes de s'impliquer sur la vie d'une ville comme Aubervilliers, d'y travailler et de trouver moyen de faire théâtre de tout ça. Alors à noter que la dramaturgie est signée Alice Zénitaire, qui vient d'avoir pour l'art de l'oubli
l'art de perdre. Vous aviez oublié le titre. Voilà. Donc voilà, c'est l'art de perdre.
Voilà. Mais Alice Zénitaire, qui a d'ailleurs fait beaucoup de théâtre depuis longtemps. Alors je ne sais pas au juste ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que le texte qui a été composé à base d'interviews, de rencontres, est particulièrement bien structuré ici, mis en scène, mis en place. Avec une insolence, une énergie, un humour en permanence. Ces filles, elles nous provoquent, elles nous harcèlent d'une certaine manière. Je pense à Sephora Pondy, qui a une manière de danser avec ses seins, de les faire voltiger de tous les côtés, un peu comme l'acteur des Chiens de Navarre avec son sexe, vous voyez. Donc là, c'est prodigieux ce qu'elle arrive à faire. Elles sont toutes épatantes. Celle qui arrive avec un tchador, qui finalement va se révéler une superbe jeune fille très sexy et qui raconte leur manière, chanteuse, qui raconte leur manière de dire non, de désobéir et de nous inciter à la désobéissance avec une joie de vivre. Enfin, on se dit que leur vie n'est pas facile, mais elle nous pousse à dire non. Et ça, je trouve que c'est une leçon et c'est prodigieux. Ça va vite, c'est bien fait, c'est bourré de vitalité et c'est des spectacles politiques au bon sens du terme.
Lucille Comeau.
Oui, c'est un spectacle dont l'écriture se construit toujours à la lisière du cliché quand même sur ce qu'on peut attendre d'un spectacle comme ça, avec quatre jeunes femmes de ce type de milieu qui en plus prennent des sujets à bras-le-corps, c'est frontal et très corporel, c'est-à-dire que leurs corps sont extrêmement présents. Je vais y revenir. Je voulais juste donner un exemple pour que les auditeurs se rendent compte un peu des sujets. Donc il y a un débat sur le voile aujourd'hui, c'est terrible, on en a tellement entendu parler, c'est difficile d'écrire ça et de faire parler à des jeunes filles du voile. Et en l'occurrence, le débat est assez cliché, c'est-à-dire où est-ce qu'on met un voile pour se protéger du désir masculin, ou est-ce qu'on met un voile au contraire pour ou est-ce que ça enferme, ou est-ce que ça protège. Enfin, c'est un débat extrêmement simple, mais à ce moment-là de la scène, elles sont toutes les quatre très rapprochées, parce qu'elles le sont très souvent en groupe, et elles impriment à leur buste un geste de balancement de droite à gauche extrêmement frénétique et rapide, qui est à la fois très sexuel et en même temps qui reproduit une sorte de tic qu'on peut avoir quand on a une discussion sérieuse. Et c'est extrêmement drôle, et ça met à distance cette espèce de débat qu'on a entendu partout et qu'on pourrait réentendre et nous passer complètement au-dessus de la tête. Donc c'est très intéressant. Et moi, je voulais dire surtout ce qui m'a vraiment surprise, et en plus on était donc avec Arnaud dans une séance qui était totalement dédiée aux scolaires. En fait, on était une dizaine d'adultes et il y avait des petits, vraiment petits collégiens jusqu'à des grands lycéens. Ils étaient vraiment petits, okay, des petits garçons. Montrés comme ça, quatre corps de femmes qui sont en effet, comme le disait Fabienne, extrêmement exposées dans leur sexualité, alors qu'elles sont jeunes, et qui parlent de sexe crûment. Il y a vraiment des mots très crus sur la sexualité féminine. C'est quand même assez surprenant et très audacieux. Et la danse, de ce point de vue-là, est très belle, parce qu'il y a des passages dansés avec de la musique très fort, type un peu hip-hop, et puis après ça change, ça devient un peu de la musique traditionnelle. Et c'est très très beau, et surtout, ce qui est beau, c'est qu'elles ont très souvent le bassin en avant, ça se finit un peu comme ça d'ailleurs, elles ont le bassin en avant qu'elles balancent un peu vers le public en permanence, comme pour mettre, elles le disent tout le temps, hein, leurs couilles sur la table, quoi. C'est une espèce de manière de montrer physiquement qu'on doit se mettre dans une position de force, et on doit se battre en fait. Et la conclusion d'ailleurs, c'est ça, puisque la fin, sans dévoiler rien, puisqu'il n'y a pas vraiment de récit, c'est il faut apprendre à se battre, en fait. C'est tout simple, il faut apprendre à se battre physiquement contre les hommes. Ça, ça a une résonance actuelle qui est vraiment forte, moi, je trouve.
Oui, il faut dire aussi, comme on était à une séance de scolaire, que c'est jamais très évident, qu'il y a quand même une très remarquable construction aussi de ce spectacle, parce qu'avoir une salle qui va de la 5e à, mettons, première terminale, première sans doute, sur des sujets alors qui renvoient un miroir certes, mais qui voilà, une sortie avec, je sais pas, 200, 300 très jeunes gens, c'est compliqué, et que le spectacle débute très fort avec cette jeune femme qui vient s'asseoir sur une chaise, elle est en hijab, donc complètement couverte, et elle va raconter ce processus de radicalisation, je mets des guillemets parce que
islamisation
ça,
de la radicalité,
ça va pas jusqu'au bout, en tout cas, mais un récit à la première personne dans lequel beaucoup de jeunes gens, filles et garçons, peuvent ou pourraient se reconnaître, et il y avait un silence qui quand même qui était assez remarquable, silence qui s'est interrompu quand on leur proposait aussi de s'interrompre à ces jeunes gens qui écoutaient très très attentivement, effectivement, les séquences de danse, les séquences plus humoristiques. Il y a un moment où il y a un jeu avec un classique, on ne va pas en dire trop, comme ça il faut garder le plaisir pour les spectateurs, mais que voilà, qu'il y a un moment vraiment où c'est là pour faire expulser aussi les émotions qui sont importantes. Vous citez Alice Zeniter, je remarque là, je découvre en même temps le programme, que le texte et la dramaturgie sont de Kevin Keiss qui travaille aussi, me semble-t-il, non, j'en suis quand même à peu près certain, avec Maëlle Poésie, avec qui elle avait signé ce spectacle vu en Avignon il y a un an et demi maintenant, qui s'intéressait aux questions politiques et sociales. Et pourquoi j'oublie le titre de ce spectacle qui parlait d'un vote blanc chez les... Bon, ça va nous revenir, et je sens qu'Aïssa Tundoy est déjà sur l'affaire. Pardon, Maëlle Poésie, d'avoir
oublié.
Oui, on est tous d'accord là-dessus, mais Aïssa Tou va bien sûr trouver le nom. Donc voilà, beaucoup de... Moi aussi, très belle surprise. Je suis très heureux de pouvoir dire tout le bien que je pense de ce spectacle, de cette proposition. Vraiment, les pièces d'actualité, c'est quelque chose de très précieux dans le paysage, parce que si Marie-Josée Malis ne l'avait pas inventé, ça n'existerait pas. Nassé Galevitch, vous voulez dire ?
Oui, mais qu'elles ouvrent des brèches sans nous dire jamais comment penser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappe à toute bien-pensance, ce qui n'est pas simple, à toute morale. Enfin, le discours est toujours complexe de ces quatre filles-là. On nous dit pas où aller, et c'est vrai que cette façon à la fois très frontale de parler des choses et en même temps avec une distance, c'est vraiment, c'est assez vertigineux, je trouve, la prouesse formelle avec du fond, parce qu'il y a quand même des questions, vous en parliez, quoi, des questions qui sont hyper sensibles et hyper importantes, qui sont mises sur le tapis, sans qu'on bascule jamais d'un côté ou de l'autre. Voilà, on nous laisse penser comme on veut, et on nous donne de l'espace et de la force, comme vous le disiez toutes les deux. Quoi. Et
puis il faut dire que ces pièces d'actualité sont toujours précédées et suivies de rencontres avec les artistes, entre spectateurs, que c'est un endroit, le Théâtre de la Commune, qui vit toute la journée de rencontres, de débats. Il y a l'école des actes aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ce théâtre. Il faudrait dire aussi que la patronne du lieu, Marie-Josée Malis, présente actuellement son Don Juan de Molière. C'est en même temps à l'affiche, donc je voulais quand même aussi le signaler, puis dire quand même pardon à Kevin Keiss et Maëlle Poésie, le spectacle, la pièce s'appelle « Ceux qui errent ne se trompent pas », voilà. Un texte de Kevin Keiss, en effet, monté par Maëlle Poésie. Vous voulez un dernier mot,
Fabienne Pascaud ? Il faut saluer quand même le travail de Julie Bérez, parce que c'est une toute jeune comédienne, et elle en a fait...
On a cru qu'elles étaient pros,
elle
on a cru
les admirablement, admirablement ouais. dirigées. Parce
les, quatre.
Sont, les quatre.
Là,
les quatre.
Il faut vraiment dire qu'il y a une qualité de jeu.
On est saisis quand elles arrivent comme ça, toutes les quatre, et elles sont formidables, toutes les quatre. Donc, il faut quand même... Il faut quand même rendre un coup de chapeau à la direction d'acteurs.
Vous avez absolument raison, et vraiment un coup de chapeau à cette pièce d'actualité numéro 9, Désobéir, conçue et mise en scène par Julie Bérez. Jusqu'au 25 novembre seulement, allez à la Commune, à Aubervilliers, découvrir ce spectacle. Et nous concluons, comme chaque soir, avec le jeu de la dispute. On va d'abord commencer par faire un rappel du jeu de vendredi soir, en tout cas rappel de la question et découverte de la réponse grâce à Grégoire Di Fiore.
Le film The Assassin s'inspire d'un récit japonais du 9e siècle. À quel genre littéraire appartient-il ? Et la réponse était le récit de merveille.
The Assassin, quelle merveille, ça pour le coup, ce film. Donc c'était une sortie en DVD, hein, je crois, de ce film de Wuxia Haussienne qui fait partie du coffret des films du cinéaste. On fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Stalingrad de Rezo Gabriadze. Lui aussi, c'est un magicien. Il faut vraiment, si on n'a pas eu l'occasion de découvrir son univers, aller voir ce spectacle. Ce sera c'est au Montfort Théâtre à Paris. Les places que nous faisons gagner sont pour la représentation de vendredi à 19h30, la question Grégoire.
Quel est le premier pseudonyme de Staline?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr en y passant vous abonner au podcast de la dispute. Demain à 19h, une dispute consacrée à la musique, alors préparez vos commentaires dès à présent sur la page Facebook La Dispute FC ou demain pour le direct sur le compte Twitter Dispute FC. Nous serons en compagnie de Pascaline Potvin, Hugo Cassavetti et Christophe Comte. À notre affiche Rest de Charlotte Gainsbourg, Blitz d'Étienne Dao et La Pantoufle de Forever Pavot, soit un programme 100% français.